9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Un pays, deux présidents, une population affamée et une aide humanitaire américaine qui s'accumule à la frontière. C'est le Venezuela d'où revient Laurence Debré, l'écrivaine et journaliste d'origine vénézuélienne qui avait tenu tête à Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet à la télévision, a passé la semaine à Caracas avec celui qui s'est proclamé président par intérim, Juan Guaido.
Je donne un ordre direct aux forces armées. Laissez l'aide humanitaire nécessaire entrer pour prendre soin de vos familles.
Mais pour l'instant, l'aide reste bloquée. Laurence Debré nous raconte dans un instant. Bientôt, la vérité, toute la vérité sur les scandales sexuels au sein de l'Église catholique. C'est la promesse de la commission Sauvé du nom d'un ancien vice-président du Conseil d'État chargé de faire la lumière sur tous les abus commis depuis 1950. Ses 22 membres se sont réunis pour la première fois hier. Jean-Marc Sauvé sera notre invité dans un quart d'heure. Cette semaine encore, le procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles a été marqué par le témoignage de deux otages du djihadiste en Syrie, dont le journaliste Didier François d'Europe 1.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence dans les prisons de Daesh sont un mode de contrôle des prisonniers, ou des otages en l'occurrence. Donc, le but du jeu, c'est qu'on ne sait jamais quand la porte va s'ouvrir. Ce qui va se passer? Est-ce que ça va être à manger? Est-ce que ça va être un tour pour aller aux toilettes? Ou est-ce qu'on va se prendre une raclée?
Otage, c'est aussi le nom d'un documentaire saisissant de Michel Perrard avec les récits de 7 hommes et femmes qui ont subi cette épreuve plusieurs mois ou plusieurs années. Michel Perrard, ancien grand reporter à Paris Match, qui fut lui-même prisonnier des talibans, viendra nous en parler. Enfin, alors que les théories du complot prospèrent, que 10% des Français pensent que l'attentat de Strasbourg était un coup monté du gouvernement, nous verrons pourquoi notre cerveau est si perméable aux fausses croyances et comment on peut traquer et déjouer les bobards dès l'école primaire. Avec nous, le chercheur Nicolas Gauvry et la professeure Rosemarie Farinella qui ont participé au livre « Des têtes bien faites, défense de l'esprit critique ».
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Laurence Debré.
Bonjour.
Vous rentrez du Venezuela où vous avez rencontré le chef du Parlement qui s'est proclamé président par intérim, Juan Guaido. Vous avez vu les grandes manifestations de samedi dernier à Caracas, celles de l'opposition et celles de soutien au régime Maduro. C'est un pays coupé en deux, le Venezuela, ou c'est un pays qui est en train de basculer?
Alors j'ai vu Caracas s'emplir d'un flot humain en 2 heures côté opposition qui attendait Guaido comme le messie et une petite manifestation plus restreinte d'environ 200 ou 300 personnes, de personnes venues en bus et un peu obligées d'être là qui venaient donc soutenir Maduro. C'est pas un pays scindé en deux parce que là vraiment maintenant depuis que les habitants des barrios, des bidonvilles, ont rejoint ce mouvement de protestation, c'est plutôt, on dit, 80%, 20%.
Des quartiers pauvres qui étaient considérés jusque-là comme des bastions chavistes. Hein.
C'est eux qui ont amené Chavez au pouvoir, mais là, maintenant, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'avenir, ni pour eux, ni pour le pays, et eux ne peuvent pas prendre les routes de l'exil. Il y a environ 5 millions, donc sur une population totale de 30, de Vénézuéliens partis en exil. C'est la plus grande migration d'Amérique latine de son histoire. Mais eux n'ont pas les moyens de partir. On n'a même plus de papiers. L'administration du régime ne donne plus de passeport ni de carte d'identité pour partir. Donc ils sont coincés là et ils n'ont rien à manger. Il y a un système de carnet de la patria qui permet d'avoir tout régulièrement des petits paquets de nourriture, on ne survit plus avec ça.
Parlez-nous justement de la vie quotidienne. Quand on dit et qu'on écrit de l'extérieur que c'est un pays ruiné, affamé, privé de médicaments, dévoré par l'inflation, c'est la réalité vécue par une majorité de Vénézuéliens aujourd'hui?
Oui, la vie quotidienne est très dure. D'abord, il y a très peu de services qui fonctionnent. Donc on a de l'eau à peu près 1 ou 2 heures par jour, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver. Y a des quartiers entiers qui ont plus d'électricité pendant une partie de la journée. Le téléphone ne marche pas très bien, Internet non plus. Et puis, avec l'inflation, on trouve très peu de choses à manger. C'est très difficile, même pour la classe moyenne, on ne fait plus de repas. On grignote les petites choses quand on en a, mais on ne fait plus de vrais repas. Les Vénézuéliens ont perdu en moyenne 8 kilos. et les hôpitaux sont dans un état de délabrement. Donc, être malade aujourd'hui, c'est mourir rapidement en quelques mois. Donc, la vie quotidienne est vraiment humiliante. Voilà.
Mais en vous écoutant, Laurence Debray, on se dit, mais si c'est comme ça, comment se fait-il que ça tient? Comment est-il possible que Maduro compte encore des soutiens populaires? Pourquoi le régime n'a-t-il pas déjà été balayé?
Alors d'abord, je pense que le chavisme est une religion, pour certains. Hein, c'est un aveuglement. Et ensuite, Maduro a l'armée, a le soutien de l'armée. C'est une armée corrompue, où il y a plus de généraux au Venezuela qu'à l'OTAN. Et c'est les généraux qui, en plus, dirigent les entreprises qui ont été nationalisées. Et ils n'ont pas fait de master à HEC, on va dire ça. Donc, rien n'est géré. Et il y a beaucoup de trafic de drogue, beaucoup de corruption. Donc, il est tenu par ce cercle proche de militaires corrompus.
Dans Paris Match, qui publie votre reportage cette semaine, vous racontez votre rencontre avec un haut gradé qui se dit surveillé et menacé. On ne peut rien faire, on ne peut pas correspondre avec nos camarades. C'est ça la réalité de l'armée et des gradés de l'armée vénézuélienne.
La réalité du pays, c'est qu'il y a environ 900 à 1000 prisonniers politiques. On ne sait pas s'ils sont encore vivants ou pas, sans compter ceux qui sont partis en exil, et à peu près 300 militaires en prison, ceux qui ont osé manifester leur mécontentement contre le régime. Aujourd'hui, l'armée est isolée, les casernes ne communiquent pas entre elles, ils ne peuvent pas adopter la loi d'amnistie comme Guaido le propose, parce que ça veut dire qu'ils mettent en danger leur famille, qu'on les menace de torture et d'emprisonnement, et ce sont des menaces sérieuses. Et en plus, ils ne sont pas ni connectés à Internet, les téléphones sont écoutés, ils ont juste la télévision du régime, mais comme à peu près tout le pays. Donc, ils sont vraiment otages du régime.
Et Donald Trump, qui continue d'agiter la menace d'une intervention militaire, est-ce qu'il n'est pas le meilleur agent de Maduro, en tout cas celui qui resserre les rangs du régime?
Donald Trump a suivi la politique du groupe de Lima, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, les États-Unis travaillent en coordination avec le groupe de Lima, c'est-à-dire tous les pays alentours. Donc évidemment, à chaque fois, mais en même temps, ça protège Guaido, c'est-à-dire que Guaido aujourd'hui est l'homme à abattre pour le régime, mais le fait que Trump dise « s'il arrive quoi que ce soit à Guaido », on interviendra, il bénéficie d'une certaine immunité.
Laurence Debray, écrivaine et journaliste de retour du Venezuela. Après une pause, vous nous direz qui est Guaido et quels sont les scénarios possibles.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec Laurence Debray, de retour de Caracas, où vous avez longuement observé cet homme qui semble surgir de nulle part, qui incarne subitement le renouveau du Venezuela, Juan Guaido, 35 ans. Vous nous confirmez, Laurence Debray, qu'il était parfaitement inconnu avant qu'il ne devienne président de l'Assemblée nationale il y a un mois?
Oui, il était totalement inconnu. Et à ce moment-là, les Vénézuéliens ne croyaient plus à rien, ils pensaient juste à survivre. Mais il a quand même monté tous les échelons. Il est rentré en politique à 18 ans. Il a créé le premier parti politique de l'opposition avec Leopoldo López. Et il était député remplaçant et maintenant député titulaire.
Il était leader étudiant aussi. Hein,
il était leader étudiant. D'ailleurs, il a des séquelles de manifs sur le corps. Il a des cicatrices éclats. Et des éclats encore qui sont restés dans le corps. Il est assez discret à ce sujet-là. C'est une figure un peu christique, donc il n'a pas peur du danger. Il se montre, les gens l'entourent, l'embrassent.
Il a du charisme, Laurence Debray.
Et alors, il a un côté très sérieux. Il est ingénieur de formation. Mmh. Il a un côté très sérieux et très concret. C'est-à-dire que c'est pour la première fois, il y a un programme. Le programme, c'est faire arriver l'aide humanitaire, avoir un gouvernement de transition et programmer très rapidement des élections. Donc, il a réussi à rassembler une opposition qui est très morcelée, où il y a des problèmes d'ego qui a coûté d'ailleurs beaucoup à cette opposition. Et il a réussi à rassembler tout le monde derrière lui. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une étoile filante. Mais il me dit, le succès me montera à la tête quand il y aura effectivement un succès. Et pour l'instant, il n'a rien obtenu.
C'est un vrai modeste, parce qu'il est souvent décrit comme cela, Laurence Debray, ou c'est un ambitieux qui masque son ambition?
Il cache peut-être son jeu, mais pour l'instant, il pense plus au pays et aux 300 000 Vénézuéliens qui sont dans un état de mort imminente, et ça l'habite vraiment. Le destin du pays l'habite vraiment. Il aurait pu partir en exil plein de fois, avoir des postes d'ingénieur au Mexique comme on lui a proposé, et il reste au péril de sa vie.
Et il a fait un sans-faute politique jusqu'à présent.
C'est exceptionnel.
Pourquoi exceptionnel? Parce que c'est une classe politique qui fait gaffeuse au Venezuela.
Parce que jusqu'à présent, c'est Maduro qui menait la danse. C'était l'opposition réagissait aux actions ou aux dires de Maduro. Là, pour la première fois, c'est l'opposition qui a pris la main sur les événements et Maduro qui doit réagir.
Quelles sont les issues possibles à la crise, Laurence Debray? Des pourparlers, un dialogue enfin entre le pouvoir et l'opposition, un effondrement du pouvoir?
Non, alors les pourparlers, il y en a déjà eu quatre. C'est juste pour gagner. Maduro essaye de gagner du temps,
oui, enfin,
et ça n'aboutit à rien.
Proposition qu'il avance. Hein,
et pour parler avec une dictature, on aboutit de toute manière à rien. Non, là, l'urgence, c'est de faire rentrer l'aide humanitaire. Et c'est vraiment l'urgence. Donc, soit Maduro accepte, et sinon on pourrait l'accuser de génocide, soit il n'accepte pas, et là, il y a affrontement. Soit aussi, une autre possibilité, c'est qu'il prenne l'aide humanitaire pour lui. On ne peut pas écarter ça. Mais pour l'instant, il y a deux containers de 50 tonnes américains qui sont à la frontière avec la Colombie, qui veulent passer. Maduro a bloqué la voie et le pont, donc on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine.
Et sur le plan politique, est-ce qu'un statu quo est possible, c'est-à-dire un enlisement, une sorte d'isolement à la cubaine avec le soutien de Cuba justement et de la Russie?
C'est ce que Maduro souhaite. C'est pour ça que je pense qu'il laisse traîner la crise, il mise sur l'essoufflement des Vénézuéliens et il mise sur une espèce d'isolement avec ses alliés, Cuba, la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie.
Ce qui vous semble possible?
Ce qui me semble malheureusement possible. Tout est ouvert encore jusqu'à présent et ils ont fait preuve, et du côté du régime, je ne vois pas pourquoi ils partiraient du jour au lendemain, parce qu'ils ont une illumination, parce que les Vénézuéliens ont faim. C'est des gens corrompus qui sont accrochés au pouvoir. Donc soit on négocie une sortie, ce qui est difficile, mais pour l'instant, il s'accroche et il a l'armée avec lui. Il a les armes.
Et des présences extérieures, elles sont visibles, elles sont repérables dans le pays, celles des Cubains, des Russes?
Alors, la présence cubaine est visible à l'aéroport, par exemple. Ensuite, elle n'est pas visible, mais les militaires m'ont confirmé qu'ils étaient surveillés par les Cubains. Et les avions, il y a des avions russes qui viennent mystérieusement la nuit, régulièrement. On dit qu'ils apportent des conseillers et des armes. Mais on n'en sait pas plus.
Merci beaucoup Laurence Debray d'être venue
Merci
nous parler de la situation au Venezuela. On peut lire votre reportage cette semaine dans les colonnes de Paris Match. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
À suivre, l'Église catholique qui confie à une commission le soin d'enquêter sur tous les abus sexuels sur mineurs commis depuis 1950. Avec quelle méthode et quelle garantie d'indépendance? Le président de cette commission, Jean-Marc Sauvé, avec nous dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine. On continue avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Jean-Marc Sauvé.
Bonjour.
Vous êtes ce qu'on appelait autrefois un grand commis de l'État, secrétaire général du gouvernement pendant 11 ans avant de présider le Conseil d'État pendant 12 ans, ce qui fait que vous avez eu à traiter avec 4 présidents de la République et 9 premiers ministres. On peut dire que ça donne un peu d'autorité, de confiance en soi, Jean-Marc Sauvé?
Ça permet effectivement de connaître de l'intérieur le fonctionnement des pouvoirs publics, et puis ça permet aussi d'avoir un regard effectivement assez distancié par rapport à la conjoncture politique.
Vous donnez donc votre nom à une instance, même si officiellement elle s'appelle Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, ce sera la Commission Sauvé. Qu'est-ce qui vous a fait accepter une tâche aussi sensible que colossale, l'exploration de tous les cas d'abus sexuels depuis 1950?
Pour plusieurs raisons. D'abord, les abus sexuels et la pédophilie, c'est à mes yeux au sommet de la hiérarchie du mal. Et par conséquent, faire la lumière sur ces faits me paraît être une tâche de salut public. La deuxième, moi, à titre personnel, comme citoyen en particulier, je ne peux qu'approuver une démarche de retour sur soi, de recherche de la vérité et de transparence. Et puis, j'ajouterai de manière un peu pratique, on ne peut pas critiquer des institutions, notamment l'Église catholique, parce qu'elle agirait trop faiblement ou trop tard, et se dérober lorsqu'elle décide de mettre les choses à plat et de tirer les conséquences du passé.
Alors comment allez-vous travailler? Vous aurez accès à toutes les archives de l'Église dans tous les diocèses?
Alors, la commission s'est réunie pour la première fois hier et elle entreprend de définir ses méthodes de travail. Ouais. Nous allons consulter toutes les sources existantes, les sources écrites. Il y a la presse, il y a également les documents du parquet, les documents des archives départementales, également même les archives des services d'écoute des victimes ou des personnes vulnérables ou en difficulté. Il y a aussi des témoignages. Et le début des années 50 signifie que nous pourrons entendre les témoignages vécus par des personnes qui sont âgées jusqu'à 80 ans et un peu plus. Et puis, naturellement, et ceci figure dans la lettre de mission que j'ai reçue le 20 novembre, nous aurons accès aux archives de l'Église catholique, c'est-à-dire des diocèses, des congrégations ouais. religieuses.
Vous serez donc financé par la conférence des évêques, mais sans lien avec elle, sans directive. Vous avez garantie d'indépendance, Jean-Marc Sauvé?
Alors, ma lettre de mission indique qu'effectivement, nous recevrons les financements qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission, et c'est tout à fait normal. Mais l'accord qui a été signé entre moi-même et le président de la conférence des évêques, l'archevêque de Marseille, marque très clairement que j'ai la libre disposition des fonds qui sont mis au bénéfice de la commission, c'est un premier point, et que d'autre part, il y a une confidentialité sur l'utilisation des fonds. C'est-à-dire que, par exemple, si la commission décide d'écouter telle ou telle personne, ça regarde la commission, mais ça ne regarde pas la conférence des évêques et la conférence des religieux et religieuses.
Vous n'aurez pas de compte à rendre, et d'ailleurs vous avez eu la liberté pour choisir les membres de cette commission, 22 membres. Alors il y a des croyants, des non-croyants, mais aucun prêtre, aucun religieux d'aucun culte, et aucune victime connue. Ce que regrette François Devaux, le président de l'association La Parole Libérée, il était hier soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
On peut juste reprocher, je trouve que ça manque de victimes au sein de cette commission, et c'est quand même grâce aux victimes qu'on en est là aujourd'hui, qui se sont battues et qui se sont fédérées, et on a essayé, nous, d'être un des catalyseurs de cela. Et je trouve qu'elle perd en crédibilité, en légitimité, en n'ayant pas de victimes, parce que quand même notre société doit beaucoup à ses victimes.
Pourquoi aucune victime dans la commission, Jean-Marc Sauvé ?
Il est incontestable que la prise de conscience qui s'est opérée dans la société française et dans l'Église catholique doit beaucoup aux victimes, c'est certain. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, du jour de ma désignation jusqu'au jour où j'ai communiqué la liste. Et je me suis aussi bien entretenu avec l'association La Parole Libérée qu'avec aussi des victimes à titre individuel qui ont trouvé leur place dans la société, mais qui gardent effectivement les blessures des victimes. Je suis arrivé à la conclusion que ce ne serait pas une bonne idée, d'abord parce que ça posait un problème de choix, pourquoi telle victime ou telle association plutôt qu'une autre, et puis ça posait un problème d'équilibre des débats au sein de la commission. Une victime, la parole d'une victime ne manquerait pas dans la commission d'inhiber ou d'intimider les autres membres de la commission. Et le choix auquel je me suis finalement arrêté, c'est de dire, il faut des personnes légitimes qui aient une autorité dans leur domaine respectif, mais qui n'aient pas été partie prenante au débat.
Oui,
donc,
mais
pas
à l'inverse,
prêtre, pas de religieux, pas de victime.
On peut penser que la présence de victimes dans la commission pourrait donner confiance à d'autres victimes pour venir témoigner.
Nous montrerons que les victimes peuvent venir témoigner. Une remarque encore, dans aucun pays, l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, les victimes n'ont été présentes dans les commissions chargées d'établir des faits.
Alors je disais tout à l'heure, travail à la fois sensible et colossal, la remise de vos travaux, de votre rapport, de vos conclusions. C'est pour quand, Jean-Marc Sauvé ?
Bien, la commission a reçu un mandat qui doit être accompli dans un délai de 18 à 24 mois. En réalité, il y a trois choses à faire. Il faut établir les faits. Ouais. Il faut ensuite comprendre et expliquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire faire un diagnostic et puis enfin faire des recommandations pour que ces drames ne se reproduisent plus. Ouais. Je pense qu'il est absolument impossible de faire un recensement complètement exhaustif, mais on peut aller très loin dans le délai de 2 ans qui nous est imparti.
En 2 ans, mais vous savez, dans d'autres pays, ça a pris... beaucoup plus longtemps encore. Hein.
Oui, dans d'autres pays, ça a pris plus longtemps. Nous, notre commission, c'est une commission d'établissement des faits, mais c'est aussi une commission de recommandation. Et je pense que nous devons aux victimes, justement, de faire des préconisations assez rapidement.
Et assez vite.
C'est ce que l'Église catholique souhaite également.
Merci Jean-Marc Sauvé, président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Merci à vous.
Europe 1.
À suivre, des têtes bien faites, une défense de l'esprit critique par 2 chercheurs et professeurs qui nous aident à déjouer les pièges pour nos cerveaux, trop enclins à adhérer à des idées fausses ou farfelues, bref, aux bobards et autres théories du complot. Nicolas Gauvry et Rosemary Farinella seront nos prochains invités.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
Comme chaque samedi, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Les théories du complot se portent bien, merci, pas mieux que l'an dernier, mais elles s'enracinent, nous dit la 2e enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire Conspiracy Watch. Avec 2 chiffres spectaculaires, 10% des Français pensent que l'attentat du marché de Noël à Strasbourg était une manipulation du gouvernement pour faire oublier les gilets jaunes, et 43% que le ministère de la Santé et de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour mentir sur la nocivité des vaccins, dont 43%, donc dont 17% tout à fait d'accord, ce qui fait des vaccins la thèse complotiste la plus répandue et bien sûr la plus dommageable pour la santé publique. Bonjour Nicolas Gauvry.
Bonjour.
Chercheur en sciences cognitives à l'École pratique des hautes études, vous venez de publier au PUF avec d'autres contributeurs, hein, c'est un ouvrage collectif, Des têtes bien faites, défense de l'esprit critique. C'est un livre à la fois théorique et pratique où vous expliquez pourquoi notre cerveau se fait si facilement berner. Vous parlez de mollesse du raisonnement humain. Pourquoi c'est mou ?
Ah, je parle de mollesse pour dire que, pour signaler quelque chose, une erreur qu'on fait quelquefois quand on veut aider les gens à développer leur esprit critique et qui consiste à simplement repérer des erreurs de raisonnement,
oui,
mais sur un mode un peu mathématique binaire. C'est-à-dire que on a des gens qui vous donnent des conseils, par exemple, si vous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui vous donnent des conseils, qui vous disent attention, ici vous êtes tombé dans un piège parce que c'est un argument d'autorité, et l'argument d'autorité, ça vaut rien.
Oui.
Voilà. Et en réalité, si on creuse un petit peu et si on va un peu plus loin, l'esprit critique, c'est plus compliqué que ça. C'est pas simplement détecter des erreurs et puis considérer qu'à partir du moment où on a utilisé, par exemple, un argument d'autorité, c'est comme si on n'avait rien dit, parce que l'argument d'autorité n'est pas une preuve, ce qui est vrai. On ne peut pas s'arrêter là, en fait. Si on creuse un peu, on s'aperçoit que la manière dont les gens raisonnent, et on est obligé de raisonner comme ça, est beaucoup plus souple. On ne raisonne pas en tout ou rien, on raisonne en quelque sorte, en degré de probabilité, en degré de crédibilité. Et donc, c'est de ça que je voulais parler dans ce chapitre-là, pour dire qu'on ne peut pas simplement s'arrêter à détecter des sophismes, ça ne suffit pas. Et pour prendre toujours cet exemple d'argument d'autorité, un argument d'autorité, ce n'est pas rien. Ce n'est pas une preuve, effectivement. Et ça peut être utilisé pour tromper les gens, mais ça n'est pas rien non plus. Et quand quelqu'un de compétent et d'expert dans un domaine nous dit quelque chose, eh bien, normalement, ça doit augmenter dans notre esprit la probabilité que cette chose soit vraie,
oui,
par exemple.
Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Et vous illustrez ce chapitre par un autre, un peu plus loin dans le livre, parce que vous traitez du climato-scepticisme et de ceux qui, comme Donald Trump et d'autres, pensent que le réchauffement est une vue de l'esprit. Ça fait partie des sujets comme les vaccins ou l'homéopathie, où il y a une rupture totale, écrivez-vous, entre la communauté scientifique et une partie de la population, auprès de qui il ne suffit plus d'invoquer, on en revient à ce que vous disiez, la science, la raison, les faits, pour les ramener à la réalité. C'est assez compliqué.
Oui, c'est assez compliqué. C'est un phénomène bien connu des psychologues et assez triste qui se produit très souvent. Un phénomène de polarisation qui fait que dans la société en général, très souvent se forment, à propos d'un sujet, ça peut être les vaccins par exemple, 2 groupes aux opinions opposées. Et il y a là un phénomène vraiment étrange qui est que quand on apporte des arguments, chacun des groupes va accepter les arguments qui vont dans son sens et rejeter ceux qui ne vont pas dans son sens, ce qui bien que chacun se radicalise et on obtient à la fin, donc sur le climat, c'était assez frappant. On avait la communauté scientifique qui, à une époque, ne savait pas trop si, oui ou non, il y avait le réchauffement climatique et si c'était d'origine anthropique. Et puis, petit à petit, par la discussion, ils sont arrivés à un consensus.
Il y a un consensus scientifique.
Et à l'inverse, oui. dans la population, il s'est formé deux groupes. Alors, en France, le groupe climato-sceptique est très minoritaire, mais dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus nombreux. Et ces deux groupes, une fois qu'ils sont radicalisés, c'est très difficile de les faire changer.
De les faire dévier de leur position initiale. La résistance aux faits, c'est intéressant, ça n'a pas forcément à voir avec la bêtise. L'intelligence, écrivez-vous, peut rendre plus résistant au changement d'avis. Quand cette intelligence, au lieu de servir à mieux comprendre les arguments d'autrui, forme à l'inverse des contre-arguments à tout discours qui contredit une position préalable.
Ouais, ça fait partie des nombreux paradoxes de l'esprit humain.
Beaucoup de paradoxes. Et dans la pratique, la démystification n'est pas simple, ce qui rend d'autant plus intéressant l'esprit critique que vous tentez de développer chez des jeunes enfants. J'appelle au téléphone Rose-Marie Farinella, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur des écoles en Haute-Savoie et je voudrais que vous nous racontiez les exercices que vous avez pratiqués avec des enfants de CM1 et CM2 pour leur apprendre à traquer les fausses informations, des jeux de rôle par exemple.
Oui, des jeux de rôle. Je voudrais juste resituer un petit peu ma progression. C'est à l'année. Alors, je l'ai expérimenté pendant 4 ans avec des élèves de 9 à 10 ans. Et la première partie de l'année, on travaille sur qu'est-ce qu'une information ? Comment, quelle est la différence entre publicité et rédactionnelle ? On observe... on explore le métier de journalisme et puis on interviewe des journalistes, ils viennent nous interviewer, mais on interviewe des journalistes. Et puis, attendez, en même temps...
Vous avez des choses qui clignotent chez vous, qui font du bruit, mais ça va s'arrêter. Mais je voudrais que vous nous racontiez, il y a des petites vidéos qu'on peut voir avec vos travaux, vous apprenez notamment aux enfants, c'est très important par exemple à regarder les sources des images qu'ils peuvent trouver sur Internet, et on peut leur apprendre très vite à détecter, à retrouver la source des photos, des images qui sont là. Mais vous faites aussi, je le disais tout à l'heure, des jeux de rôle. Racontez-nous.
Oui. Alors là, c'est très important. Ces jeux de rôle, c'est pour travailler sur l'objectivité et la subjectivité, qui sont des notions très complexes, mais très importantes à comprendre. Donc, par exemple, les élèves se mettent dans la peau de journaliste. Et je leur donne une impro comme thème, c'est l'ouverture de la chasse et il y a une manifestation. Et alors, il y a des écologistes et des chasseurs, évidemment, qui viennent ce jour-là. Donc, qui doit-on interviewer ? Parce que, donc, ce que je veux, c'est qu'ils comprennent l'importance de recueillir tous les points de vue de tous les protagonistes impliqués dans un événement.
Oui.
Alors, donc ils décident, on va interviewer des chasseurs, on va interviewer des écologistes, on va interviewer des pompiers parce qu'il y a une manifestation, donc il y a des blessés, on va interviewer des policiers, et le ministre de la Défense des animaux, par exemple. Et puis, ce que je leur demande, c'est qu'est-ce qui se passe si le journaliste ne donne que le point de vue des écologistes ou que le point de vue des chasseurs.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe si le journaliste lui-même est chasseur ou écologiste ? Et comment faire la différence entre une opinion et un fait prouvé ?
Oui.
Parce que de dire « ouais, tous les chasseurs sont cruels », est-ce que c'est une opinion ou est-ce que c'est un fait ? Est-ce que quand on dit il y a eu 9 blessés qui ont été transportés à l'hôpital de Sallanches, est-ce que c'est une opinion ou un fait ? Un fait, on peut le prouver. Et ça c'est vrai, c'est la vérité. Donc voilà, c'est pour leur montrer l'importance de détecter la vérité. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et ce que je leur montre aussi, c'est qu'il y a, par exemple, Kevin, le blogueur, qui traverse la manifestation avec son smartphone. Il fait une photo d'un manifestant tenant une pancarte chasseur-assassin. Ouais. Et lui, en moins d'une minute, il va balancer sur Internet sa photo avec comme légende « les chasseurs ont tué des écologistes à Taninges ». Et que se passe-t-il quand on diffuse comme ça en moins d'une minute une fausse information, alors que le journaliste, lui, il aura passé des heures à aller interviewer à droite, à gauche, à faire la synthèse, à réfléchir, à voir avec des experts, et à rédiger. Et alors on rédige aussi ensemble. Je vois que c'est pas facile non plus de rédiger.
Rosemary Farinella, la suite dans le livre, la suite, on peut la trouver parce que vous signez l'un des chapitres de ce livre dirigé par Nicolas Gauvry et Sylvain Delouvet, des têtes bien faites, défense de l'esprit critique au PUF. Merci à vous deux d'être venus ce matin dans C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, Otage, formidable documentaire dont les héros restent marqués à jamais par des mois ou des années de captivité. Michel Perrard vient nous en parler.
Europe 1. De 9h à 10h, c'est arrivé cette semaine avec vous, Patrick Cohen.
Et cette semaine à Bruxelles, le djihadiste Mehdi Nemmouche, jugé pour la tuerie du musée juif en 2014, Nemmouche a été formellement reconnu comme étant le geôlier et le tortionnaire en Syrie de deux journalistes français, dont Didier François d'Europe 1, qui a témoigné de ses conditions de captivité.
Vous avez trois jours assez durs qui sont la prise d'otage proprement parlée, ou pendant trois jours et trois nuits. Vous n'avez ni eau, ni électricité. Vous avez sur les yeux un bandeau sur lequel ils avaient mis du gaz lacrymogène et on se faisait battre et tabasser avec des baramines toutes les heures ou demi-heures, enfin, pour nous empêcher de dormir, etc. Donc ça, c'est... Enfin, on n'avait strictement aucun doute sur le fait qu'ils pouvaient nous tuer. Enfin, c'est quand même l'État islamique. Donc. Et honnêtement, effectivement, on a eu une chance monstrueuse de s'en sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence dans les prisons de Daesh sont un mode de contrôle des prisonniers. Ou des otages, en l'occurrence. Donc, le but du jeu, c'est qu'on ne sait jamais quand la porte va s'ouvrir, ce qui va se passer. Est-ce que ça va être à manger? Est-ce que ça va être un tour pour aller aux toilettes? Ou est-ce qu'on va se prendre une raclée? Et le même qui va un jour vous amener trois olives, va une demi-heure plus tard rentrer dans la pièce et vous massacrer. Voilà.
On ne sait jamais quand la porte va s'ouvrir et ce qui va se passer, ce qu'il y a derrière, dit Didier François. Bonjour Michel Perrard.
Bonjour.
Grand reporter à Paris Match pendant 35 ans, vous signez un documentaire pour Canal+, baptisé simplement « Otage », dont les héros sont sept hommes et femmes qui ont subi ce traumatisme exceptionnel durant quelques mois, quelques années, jusqu'à 8 ans de détention pour ce Colombien otage des FARC. Et c'est renversant, on croyait avoir tout entendu sur les récits de captivité et on n'avait rien entendu.
Ben, je crois qu'il y a une grande injustice dans la narration de ce que peut être une prise d'otage. D'abord parce que durant la détention, ils sont par définition dans l'incapacité de raconter leur histoire. Et souvent, dans ce qui est rapporté, il y a beaucoup d'erreurs. C'est quelque chose qui les agace beaucoup à leur libération, de voir que les circonstances de la capture, leurs conditions de détention sont à ce point erronées. Et puis ensuite, il faut du temps pour que la parole se libère et que leur histoire se reconstitue. Et en fait, quand ils sont prêts à témoigner, généralement, on les écoute plus.
Non, le surlendemain, on est passé à autre chose, évidemment. Votre film, ce sont des témoignages sans commentaires. Ils sont dans leur cadre de vie, ils sont chez eux et ils ont beaucoup de points communs. D'abord, tous ou presque ont rêvé de fuite ou de mort. Et puis, il y a le mépris, l'humiliation. L'un des geôliers de Peter Curtis, l'Américain, lui dit « Tu es un animal ». Oscar Liscano, ce Colombien en détention pendant 8 ans, personne ne lui parle pendant toute la durée de sa captivité. Pierre Borghi, le Français, est enterré dans un trou, sans aucune lumière, dans le noir complet.
Oui, je crois que Didier vient de le dire. Didier a vécu, comme les autres otages de ce qu'on a appelé l'usine à otages de Raqqa, des conditions de détention épouvantables, et surtout les premiers jours. C'est souvent le cas. C'est souvent les premiers jours qu'il y a une volonté de la part des ravisseurs de déshumaniser, de désincarner l'otage. Je pense que ça correspond à deux idées, c'est-à-dire d'une part, il faut éviter toute tentation de résistance, toute tentation de rébellion. Et puis ensuite, si jamais, Didier l'évoque, si jamais l'otage doit être exécuté, bah, il faut le désincarner. Il faut que ce ne soit pas Didier François qui soit abattu, mais simplement l'otage. C'est ce que dit Pierre Borghi dans le film. Mmh. Donc cet otage français des talibans, ces geôliers refusaient de connaître son nom. Ils n'ont jamais su son nom. c'était l'otage. La mort se joue à tout moment. C'est-à-dire que la mort peut survenir parce que à un moment donné, la négociation achoppe et donc on décide de se débarrasser du prisonnier. La mort peut surgir aussi de l'extérieur. Les fameuses tentations de libération de l'armée colombienne en Colombie s'est soldée par des dizaines et dizaines de morts, les FARC exécutant les otages dans la seconde.
Ce qui est fascinant aussi dans votre film, Michel Perard, c'est que on a des témoignages très émouvants, très intimes, très profonds, mais qui ne sont pas ou quasiment jamais empreints de haine. Tous ceux qui ont vu votre film ont été particulièrement émus par l'image d'Oscar Lizcano, ce Colombien homme brisé, qui dit avoir survécu grâce à la poésie, aux cours qu'il donnait aux arbres, puisque personne ne lui parlait. Lui parlait tout fort et il s'adressait aux arbres de la jungle. Et il n'a pas de rancœur, dit-il. Si j'avais de la rancœur, je serais toujours otage dans la jungle. Je me suis libéré de cette rancœur. C'est quand même assez extraordinaire.
Je crois qu'ils ont tous fait à un moment donné le bilan de cette expérience et de savoir quel comportement ils devaient avoir envers leur ex-ravisseur. Et Oscar Tullio est allé au fond de cette logique-là, c'est-à-dire que non seulement il n'a pas de rancœur à l'égard de ses ex-ravisseurs, mais il a fait une thèse de philosophie dont le titre est « Le pardon dort avec les mots ». Et effectivement, il a fait ce travail-là. Je crois que beaucoup d'entre eux ont fait ce travail-là avec cette idée que finalement, leur vie a été confisquée et qu'ils ne l'ont pas tout à fait récupérée. Donc il va falloir effectivement faire ce travail de pardon.
Ça va même plus loin pour l'un de vos témoins, Peter Curtis, qui dit correspondre avec ses ravisseurs, enfin qui disait, parce que certains ont peut-être été tués ou capturés depuis, l'un des commandants de Daesh, dont il dit, quand il lui était gentil, il le désigne, lui était gentil, quand il me battait, il ne faisait pas couler le sang.
Ouais, ça surprend beaucoup. En fait, c'est aussi un thème qui est assez récurrent chez les ex-otages, c'est cette volonté de contextualiser. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un récit complet de ce qui a pu se passer. Ils ont vu une réalité par le petit bout du grillage de leur cellule. Donc, ils ont envie parfois d'y retourner, de voir, d'interroger des témoins, d'interroger d'ex-geôliers ou d'ex-compagnons de détention. Mais aussi, cette volonté de continuer à correspondre. Théo le dit dans le film, c'est-à-dire, moi, je veux comprendre leur psychologie. C'est-à-dire, je sais voilà, que c'est le diable incarné pour certains d'entre eux, mais je veux comprendre comment ça fonctionne. Donc effectivement, ils restent en contact avec eux.
Est-ce que l'approche de ces témoins a été difficile, Michel Perard? Et est-ce que le fait que vous-même, qui avez été prisonnier des talibans pendant quelques semaines en Afghanistan en 2001, est-ce que ça, cette expérience-là et ce passé-là qui est le vôtre à compter?
Et ma grande surprise, c'est que tous les gens que j'ai pu contacter m'ont dit oui immédiatement. Et je crois qu'ils avaient envie d'aller au fond, de libérer la parole de la gang d'un témoignage qui est trop souvent raconté dans les mêmes termes.
Et de montrer en quoi cette expérience-là les avait changé, et même pour ce qu'en disent certains, radicalement changé.
Oui, il y a des changements. Ils font très souvent des bilans de vie quand ils sont otages. Pierre Borghi, par exemple, qui est donc l'otage français des talibans, a fait une liste de promesses quand il était détenu dans un trou de 40 cm par 60, où il ne pouvait pas se tenir ni allongé ni debout. Il a fait une liste de promesses de vie. Et ça allait de voir plus souvent ses amis, se réconcilier avec certains. Donc il y a une volonté comme ça de remettre à plat sa vie. Et parfois ça se passe. Mais bon, il se trouve qu'ils idéalisent beaucoup quand ils sont en détention. Et très souvent, le retour ne se passe pas aussi bien, et notamment avec les familles.
Évidemment. Et puis il y a ce clin d'œil incroyable, ce couple d'Allemands enlevés dans le désert saharien, par Acme, et qui est devenu, qui a changé de vie ensuite, et qui aujourd'hui s'est spécialisé dans la recherche de disparus.
Ils sont devenus maîtres chiens de sauvetage, c'est-à-dire qu'ils étaient pas mariés.
Ils se connaissaient depuis huit mois.
Et ils se sont fait deux promesses dans le désert, c'est que s'ils en sortaient vivants, d'une part ils allaient se marier, et d'autre part, ils allaient dresser des chiens de sauvetage et désormais, ils sont champions d'autrice de chiens de sauvetage. De mon point de vue, c'est une formidable expérience de résilience et de sens à donner à une épreuve épouvantable.
Otage, c'est un documentaire donc signé Michel Perard qui est visuellement magnifique aussi, réalisé avec Damien Werckhammer. En première diffusion, mercredi prochain, 20h55 sur Canal+. Merci à vous, Michel Perard.
Merci.
Europe 1.
Voilà, je vous retrouve demain pour C'est arrivé demain, 9h10 sur Europe 1, dans moins de 5 minutes, Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen.
Ce matin,
deux grandes voix de, qui n'ont pas leur langue dans leur poche de la géopolitique. On va parler de la France, bien sûr, mais aussi du Venezuela, de la Turquie et des États-Unis. Ça va être génial.
Vincent Hervouet et Bernard Guetta. C'est moi qui fais le sommaire. À tout à l'heure. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.